Religion, philosophie et science. L'hellénisme était caractérisé par la suprématie du modèle grec, qui ignorait les frontières entre les pays ainsi que leur propre culture. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens, les Syriens et les Perses avaient autrefois vénéré leur dieu dans le cadre de ce que nous pourrions appeler une religion nationale. Désormais, les différentes cultures se fondaient en une seule gigantesque potion de sorcière, où se retrouvaient pêle-mêle toutes les conceptions religieuses, philosophiques et scientifiques. L'agora, ou la place publique, fut en quelque sorte remplacée par la scène mondiale. L'agora aussi résonnait de différentes voix qui vendaient toutes sortes de marchandises, colportant en même temps des idées et des pensées. La nouveauté, c'était que les marchés regorgeaient dorénavant de denrées et d'idées du monde entier, et qu'on y entendait parler toutes sortes de langues. Que la pensée grecque ait trouvé là un terrain de prédilection bien au-delà des anciennes provinces grecques, nous l'avons déjà dit. Dorénavant, les dieux orientaux furent également vénérés tout autour de la Méditerranée. Plusieurs nouvelles religions virent le jour qui empruntaient leurs dieux et leurs croyances à plusieurs vieilles nations. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, ou le mélange des religions. Les hommes étaient autrefois intimement liés à leur propre peuple et à leur cité. Avec l'abolition des frontières et des lignes de démarcation, beaucoup furent envahis par le doute et l'incertitude concernant leur conception de vie. L'Antiquité tardive était sous le signe du doute, de la chute des valeurs culturelles et du pessimisme. Le monde est vieux. Voilà ce qu'on disait. Les nouvelles religions qui virent le jour pendant l'hellénisme ont tout un point commun, à savoir un enseignement pour délivrer les hommes de la mort. Cet enseignement était le plus souvent secret. En accomplissant en outre certains rites, l'homme pouvait espérer l'immortalité de l'âme et la vie éternelle. Et il importait autant d'avoir une intuition de la vraie nature de l'univers que de respecter les pratiques religieuses pour obtenir le salut de l'âme. Voilà pour ce qui est des nouvelles religions, Sophie. Mais la philosophie aussi s'orienta de plus en plus vers le salut et une certaine sérénité de la vie. La pensée philosophique n'avait pas seulement une valeur en elle-même, elle devait permettre à l'homme de se libérer de l'angoisse de la mort et du pessimisme. La frontière entre la religion et la philosophie devint alors bien ténue. On peut avancer sans se tromper que la philosophie de l'hellénisme ne brillait pas par son originalité. Aucun nouveau Platon ou Aristote à l'horizon. Cependant, les trois grands philosophes d'Athènes contribuèrent fortement à inspirer plusieurs courants philosophiques que je vais te brosser à grands traits. La science de l'hellénisme était aussi caractérisée par le mélange d'expériences de différentes cultures. La ville d'Alexandrie en Égypte joua un rôle clé comme point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Tandis qu'Athènes restait la capitale de la philosophie, avec les écoles philosophiques héritées de Platon et d'Aristote, Alexandrie devint la capitale de la science. Avec son extraordinaire bibliothèque, cette ville devint le centre des mathématiques, de l'astronomie, de la biologie et de la médecine. On pourrait comparer la culture hellénistique avec le monde d'aujourd'hui. Notre XXe siècle est également caractérisé par une société très ouverte aux influences extérieures. Cela a provoqué aussi de grands bouleversements en matière de religion et de conception de la vie. Comme à Rome, au début de notre ère, on pouvait rencontrer des représentations de dieux grecs, égyptiens et orientaux. Nous pouvons trouver, à la fin du XXe siècle, des représentations religieuses de toutes les parties du monde dans la plupart des grandes métropoles européennes. Nous pouvons observer à notre époque tout un mélange d'anciennes et de nouvelles religions, de philosophie et de sciences réapparaître sous diverses formes et proposer sur le marché de prétendus nouveaux choix de vie. Méfions-nous de ces prétendus nouveaux savoirs qui ne sont en réalité bien souvent que des résurgences d'anciennes connaissances qui remontent, entre autres, à l'hellénisme. Comme je l'ai déjà dit, La philosophie hellénistique travailla à approfondir les questions soulevées par Socrate, Platon et Aristote. Le problème essentiel pour eux était de définir la meilleure façon pour un homme de vivre et de mourir. L'éthique devint le projet philosophique le plus important dans la nouvelle société. Toute la question était de savoir en quoi consistait le vrai bonheur et comment l'atteindre. Nous allons étudier quatre de ces courants philosophiques. Les cyniques. On raconte que Socrate s'arrêta un jour devant une échoppe qui proposait différentes marchandises. À la fin, il s'écria « Que de choses dont je n'ai pas besoin !» Cette déclaration pourrait être le mot d'ordre des cyniques. Antisthène jeta les bases de cette philosophie à Athènes, vers 400 avant Jésus-Christ. Il avait été l'élève de Socrate et avait surtout retenu la leçon de frugalité de Socrate. Les cyniques mettaient l'accent sur le fait que le bonheur n'est pas dans les choses extérieures comme le luxe matériel, le pouvoir politique et la bonne santé. Le vrai bonheur est de savoir se rendre indépendant de ces conditions extérieures, accidentelles et instables. C'est justement parce que le véritable bonheur ne dépend pas de ce genre de choses qu'il est à la portée de tous. Et une fois atteint, c'est pour toujours. Le cynique le plus célèbre fut Diogène, qui fut un élève d'Antisthène. On raconte qu'il vivait dans un tonneau et ne possédait qu'un manteau, un bâton et un sac pour son pain. Difficile dans ces conditions de l'empêcher d'être heureux. Un jour qu'il était assis devant son tonneau à profiter du soleil, il reçut la visite d'Alexandre le Grand. Celui-ci s'arrêta devant le sage et lui demanda s'il désirait quelque chose. Diogène répondit « Je veux bien que tu fasses un pas de côté pour laisser le soleil briller sur moi. » Il démontra par là qu'il était à la fois plus riche et plus heureux que le grand conquérant, puisqu'il avait tout ce qu'il désirait. Les cyniques pensaient que l'homme ne devait se préoccuper ni de sa propre santé, ni de la souffrance, ni de la mort. Il ne devait pas non plus se laisser troubler en prêtant attention aux souffrances d'autrui. De nos jours, les termes « cynique » et « cynisme » s'emploient pour exprimer le manque de compassion envers autrui. Les stoïciens. Les cyniques eurent une grande importance pour les stoïciens dont la philosophie vit le jour à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ. Leur fondateur fut Zénon, qui était originaire de Chypre, mais se joignit aux cyniques à Athènes après que son navire eut fait naufrage. Il avait coutume de rassembler ses disciples sous un portique. Le nom stoïcien vient du mot stoa, portique. Le stoïcisme exerça par la suite une grande influence sur la culture romaine. Comme Héraclite, les stoïciens pensaient que tous les hommes faisaient partie intégrante de la raison universelle ou du logos. Chaque individu est un monde en miniature, un microcosme, qui est le reflet du macrocosme. Ceci permettait d'établir un droit valable pour tous les hommes, le droit naturel. Parce que le droit naturel est fondé sur la raison intemporelle de l'homme et de l'univers, il ne change pas en fonction du temps et du lieu. Ils prirent ainsi le parti de Socrate contre les sophistes. Le droit naturel est le même pour tous, même pour les esclaves. Les stoïciens considéraient les livres de loi des différents États comme de pâles copies du droit inhérent à la nature. De même que les stoïciens gommaient la différence entre l'individu et l'univers, ils rejetaient aussi toute idée de contradiction entre l'esprit et la matière. « Il n'y a qu'une nature et une seule », disaient-ils. On appelle une telle conception le monisme, en opposition par exemple au dualisme de Platon, c'est-à-dire au caractère double de la réalité. En dignes enfants de leur époque, les stoïciens étaient de vrais cosmopolites. Ils étaient plus ouverts à la culture de leur temps que les philosophes du tonneau, les cyniques. Ils soulignaient l'aspect communautaire de l'humanité, s'intéressaient à la politique et plusieurs d'entre eux y jouèrent un rôle important. Comme l'empereur romain Marc Aurèle, 121-180 après Jésus-Christ. Ils contribuèrent à étendre la culture et la philosophie grecque dans Rome, comme ce fut le cas de l'orateur, du philosophe et de l'homme politique Cicéron, 106-43 avant Jésus-Christ. C'est lui qui créa le concept d'humanisme, c'est-à-dire d'un mode de vie qui place l'individu au centre. Le stoïcien Sénèque, 4 avant Jésus-Christ, 65 après Jésus-Christ, déclara quelques années plus tard que « l'homme est quelque chose de sacré pour l'homme ». Ceci est resté la devise de tout l'humanisme après lui. Les stoïciens faisaient d'ailleurs remarquer que tous les phénomènes naturels, comme par exemple la maladie et la mort, suivent les lois indestructibles de la nature. C'est pourquoi l'homme doit apprendre à se réconcilier avec son destin. Selon eux, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité. Et rien ne sert de se lamenter quand le destin vient frapper à la porte. Les heureuses circonstances de la vie, l'homme doit aussi les accueillir avec le plus grand calme. Nous reconnaissons ici une parenté avec les cyniques qui prétendaient que toutes les choses extérieures étaient indifférentes. Nous parlons aujourd'hui de « calme stoïque » pour qualifier une personne qui ne se laisse pas emporter par ses sentiments. Les épicuriens. Socrate se demandait, nous l'avons dit, comment l'homme pouvait vivre heureux. Les cyniques et les stoïciens l'interprétèrent en prétendant que l'homme devait se libérer de tout luxe matériel. Mais Socrate eut aussi un élève qui s'appelait Aristippe. Selon lui, le but de la vie devait être d'atteindre la plus grande jouissance possible. Le bien suprême est le plaisir, affirmait-il. Le plus grand des maux est la douleur. Ainsi, il voulait développer un art de vivre qui consistait à éviter toute forme de souffrance. Le but des cyniques et des stoïciens était d'accepter la souffrance sous toutes ses formes. C'est autre chose que de chercher à tout prix à éviter la souffrance. Vers 300 avant Jésus-Christ, Épicure, 341-270, fonda une école philosophique à Athènes, les Épicuriens. Il développa la morale de plaisir d'Aristippe tout en la combinant avec la théorie des atomes de Démocrite. On raconte que les Épicuriens se retrouvaient dans un jardin. C'est pourquoi on les appelait les philosophes du jardin. La tradition rapporte qu'au-dessus de l'entrée du jardin était placée cette inscription. « Étranger, ici tu seras bien traité. Ici, le plaisir est le bien suprême. » Épicure insistait sur le fait que la satisfaction d'un désir ne doit pas faire oublier les effets secondaires éventuels qui peuvent en résulter. Si tu as déjà eu une crise de foie pour avoir trop mangé de chocolat, tu comprendras ce que je veux dire. Sinon, je te donne l'exercice suivant. Prends tes économies et va t'acheter du chocolat pour 200 couronnes, dans l'hypothèse où tu aimes le chocolat. Il s'agit maintenant de tout manger d'un seul coup. Une demi-heure environ après, tu ne manqueras pas d'éprouver ce qu'Épicure appelait les effets secondaires. Selon Épicure, la satisfaction d'un désir à court terme doit être mise dans la balance avec la possibilité d'un plaisir plus durable ou plus intense à long terme. Imagine que tu décides de te priver de chocolat pendant toute une année afin d'économiser ton argent de poche et t'acheter un nouveau vélo ou passer des vacances à l'étranger. À la différence des animaux, l'homme a en effet la possibilité de planifier sa vie. Il possède la faculté de programmer ses plaisirs. Du bon chocolat, cela représente quelque chose. Mais le vélo et le voyage en Angleterre aussi. Cela dit, Épicure insistait sur la différence qu'il peut exister entre le plaisir et la satisfaction des sens. Des valeurs comme l'amitié ou le plaisir esthétique existent elles aussi. Pour jouir pleinement de la vie, les vieux idéaux grecs de maîtrise de soi, de modération et de calme intérieur sont déterminants. Il faut dompter le désir, car la sérénité permet de mieux supporter aussi la souffrance. Les hommes tourmentés par l'angoisse des dieux cherchaient souvent refuge dans le jardin d'Épicure. À cet égard, la théorie des atomes de Démocrite constituait un bon remède contre la religion et la superstition. Car pour avoir une vie heureuse, il faut d'abord surmonter sa peur de la mort. Sur ce point précis, Épicure se servait de la théorie de Démocrite sur les atomes de l'âme. Tu te souviens peut-être qu'il n'y avait pas, selon lui, de vie après la mort, car tous les atomes de l'âme s'éparpillaient de tous côtés à notre mort. La mort ne nous concerne pas, affirmait Épicure tout simplement. Car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus. Il est vrai que l'on n'a jamais entendu parler de quelqu'un se plaignant d'être mort. Épicure donna lui-même un résumé de sa philosophie libératrice, avec ce qu'il a appelé les quatre plantes médicinales. Nous n'avons rien à craindre des dieux. La mort ne mérite pas qu'on s'en inquiète. Le bien est facile à atteindre. Le terrifiant est facile à supporter. Dans le contexte grec, ce n'était pas une nouveauté que de comparer le devoir du philosophe avec l'art de la médecine. La pensée qui sous-tend ce discours est que l'homme doit se munir d'une pharmacie de voyage philosophique qui contienne ces quatre plantes miracles. À la différence des stoïciens, les épicuriens manifestaient peu d'intérêt pour la politique et la vie sociale. Vivons cachés, tel était le conseil d'Épicure. Nous pouvons hasarder une comparaison entre son jardin et les communautés de jeunes d'aujourd'hui qui partagent le même appartement. De nombreuses personnes, à notre époque, ont cherché à trouver un refuge, un havre de paix pour échapper à une société trop anonyme. À la suite d'Épicure, beaucoup se sont cantonnés à la seule satisfaction de leurs désirs, avec pour devise « Vis le moment présent ». Le terme « épicurien » s'utilise de nos jours pour qualifier de manière péjorative un bon vivant.